Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Toasty, la saison 2 de Toasty qui démarre maintenant, tout de suite et sans s'arrêter. Nous sommes sur Twitch, nous sommes le 19 octobre 2013, c'est la pleine lune. Et comme c'est la lune, je pense qu'on peut dire que Toasty est de retour, n'est-ce pas messieurs? Est-ce que vous êtes là?
Oui.
Salut, on est tous, salut.
Voilà, et donc il y a beaucoup de monde ce soir, je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde dans Toasty. D'ailleurs, comme quoi le faire une fois par mois, ça permet de le faire un peu plus facilement. Nous avons donc, je vais les faire par ordre alphabétique, nous avons donc Akik. Bonsoir Akik.
Salut tout le monde.
Ensuite, nous avons sur Isenier, Sly. Bonsoir Sly.
Salut tout le monde.
Ensuite, il y a Livid. Bonsoir Livid.
Yo.
Ensuite, il y a bien sûr Monsieur Glag. Comment ça va?
Salut tout le monde.
Enfin, il y a TMDJC, le seul, l'unique.
C'est lui-même.
Et enfin, il y a Wellcook, qu'on ne présente pas, hein, parce que bon, vous le connaissez, voilà.
Bonsoir à tous, je tiens juste à dire que t'as quand même un peu de mal avec l'ordre alphabétique.
Oui,
mais... Et qui présente?
Qui présente? Bah, c'est moi, c'est Nathan, tout ça, voilà.
Oh, Nathan!
Voilà,
oh,
voilà.
C'est qui? Bref,
on ne savait pas.
Un nouvel arrivant dans Toasty.
Et oui, vous l'entendez, il n'y a aucun membre de l'équipe de Toasty normal dans ce Toasty de ce soir, car ils ne sont pas disponibles. Enfin bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors ce soir, nous avons tout un programme. On va essayer de tenir les envies de conneries de Wellcook et les pérégrinations impossibles et trop longues de TMDC, tandis qu'Izeniel râlera évidemment parce qu'on prend trop de temps et que c'est chiant à mixer. Livid restera silencieux, Monsieur Glag parlera de petites culottes et Akik fera de la muscu sur un banc tout en écoutant le podcast. Bref, c'est Toasty, c'est la nouvelle saison. Merci d'être là, messieurs. Vous êtes prêts?
Ouais.
On essaye. Ouais.
Eh ben écoutez, on est parti et on va commencer par quelque chose de très sympa, car je ne l'ai pas présenté, mais il est bien avec. Il y a un invité dans Toasty, et on va commencer tout par lui, car c'est à la fois un amateur de jeux de baston, mais aussi un homme qui sert des pintes à ses invités et prend leur hareng. Autrement dit, il bosse dans un bar. Et Monsieur Glag, tu peux peut-être nous présenter Dadou.
Bonsoir.
Et bah donc l'invité de ce soir, c'est donc Dadou, gérant du Players Bar.
En Auvergne.
Voilà, alors parle-nous, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton établissement?
Eh ben oui, donc j'ai ouvert un bar avec une salle d'arcade en Auvergne. Donc il y a d'un côté un bar, licence 4, avec tout ce qu'il faut, de la bière, des happy hour, des cocktails, avec des noms à la con, genre des cerveaux de zombies, des trucs comme ça. Et puis ça dose toute la journée, il y a... Je vais vous faire un listing des bornes vite fait, hein. Il y a un GTI Club, une House of the Dead 3. Et après, on a de la Candy Cab, on a deux Blast City en versus avec Street Fighter 2X, deux bornes avec des slots MVS Neo Geo pour tous les jeux Neo Geo, un DDR qu'on doit écouter d'ailleurs parce qu'il y a du monde qui est en train de jouer, et un Mushi Mesama Futari 1.5. Voilà.
C'est presque bien.
Bah, c'est presque pas mal pour un bistrot, quoi.
Bah ouais, mais t'as mis un sens de 3 au lieu du 2, quoi. Qu'est-ce que je te dis? C'est une faute de goût fondamentale.
Ah ouais, non, mais complètement. Et puis en plus, avec la 2, t'as pas les problèmes avec les fusils à pompe, quoi.
Ah voilà.
Alors du coup, tu disais c'est en Auvergne, d'accord, mais c'est quoi l'adresse?
C'est à Rion. Donc Rion, c'est à 5 minutes de Clermont-Ferrand. Et à côté de la gare, donc on y est vite, en gros, de partout. Vu que c'est le centre de la France, vous pouvez venir tous. Voilà. Et l'adresse, c'est 3 place Eugène Rouer à Rion. Voilà. Bon,
donc en gros, c'est le centre de la France, donc en fait, c'est loin pour voilà. Tout le monde. Quoi.
Non, c'est près pour tout le monde. Ça, c'est près pour tout le monde.
Au milieu de nulle part, en fait.
D'accord. Voilà. Mais ça fait moins loin pour chacun.
Ouais, c'est vrai que c'est bien l'Auvergne, c'est vachement beau l'Auvergne, en fait. Faut dire ce qui est, donc ça
mérite
d'y aller. C'est dommage qu'il y ait autant d'Auvergnat, mais c'est un beau pays.
Ouais, c'est clair. Quand il y en a un, ça va.
Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tout d'un coup, tu t'es dit, vas-y, je vais foutre des bornes dans ma licence 4 ou inversement de la licence 4 dans mes bornes et est-ce que
c'est plutôt le contraire en fait, c'est plutôt les salles d'arcade, il y en a quand même qui se sont cassés la gueule, bon je parle déjà les tarifs machin et tout, et je me suis dit comment je peux faire une salle d'arcade et aussi vu que je vais y passer ma vie pouvoir peut-être dans un avenir plus ou moins proche me sortir un salaire et pas avec les bornes, donc on va mettre un bar à côté, comme ça les gens ils viennent jouer, il transpire sur la DDR et après il vient de boire. Et c'est là qu'on fait l'argent.
Eh ben j'ai envie de dire que tu as tout compris.
Voilà.
Non, parce que c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle génération de salles qui a essayé d'ouvrir là sur les 5 dernières années. Et l'expérience a montré que gagner de l'argent avec que les jeux et les bornes,
c'est très compliqué.
C'est très compliqué, quoi. Il faut avoir une autre activité à côté associée à la salle pour réussir à gagner de l'argent.
Voilà. Puis accessoirement, je suis à côté d'un bon petit lycée. Ils sont 2000, donc ça me permet déjà de leur faire découvrir l'arcade, quoi. C'est des lycéens et en fait, tu te rends vite compte que ben les graphismes, la next-gen, c'est vite oublié quand ils font un Windjammers ou un 2X, quoi.
Je suis en train de te dire que t'as pris une licence 4 pour des lycéens.
Mais non.
J'allais faire la même.
Et dans une licence 4, ça englobe la 1, la 2 et la 3 aussi. Et les lycéens à 18h, je les ai plus. Hein. Après, c'est les gars qui rentrent du taf.
C'est beau.
Mais ce que tu disais à propos de la borne d'arcade, Well Cook, malheureusement, on l'a dans beaucoup de domaines, notamment des domaines culturels, où effectivement, tous ceux qui se sont lancés ces dernières années de manière totalement explicite dans un domaine particulier, même si c'est des domaines geeks type manga ou etc., ils se sont plus ou moins cassés la gueule tant qu'ils n'ont pas mis autre chose à côté. Là, du côté de chez nous, il y a du coup maintenant un espèce de bar qui propose des jeux, qui propose des lectures, etc. Et c'est parce qu'il y a le côté bar qui fonctionne que le reste survit.
Bah, je fais aussi les jeux de société, j'ai une trentaine de jeux de société que je prête aussi, en plus.
Ah, c'est chouette ça, donc t'as des joueurs de Magic aussi ?
Non, pas trop, mais j'ai, tu vois, tous les classiques, les Catan, les trucs comme ça. Là,
ah oui, bah c'est bon.
Le Corridor, Mr. Jack et compagnie. Quoi.
Et donc j'avais une question très simple, mais est-ce que ça marche, alors ?
Ouais, ça va, ça démarre bien, là. Là, bah, le mercredi, c'est le plus calme, parce que bah, les lycéens, donc vu que moi je sers pas les lycéens, ils vont boire ailleurs. Voilà, donc les mercredis c'est plus calme, mais le vendredi et samedi c'est bien.
D'accord.
Voilà.
Et tu es ouvert depuis combien de temps exactement ? Je
suis ouvert depuis le mois de mars.
Ouais, c'est relativement récent.
Ouais. En fait. Ouais, c'est relativement récent, mais je commence. Ça, bah en fait, c'était un bar tenu par des vieux, on va parler normalement, hein, et qui avait une clientèle vieille, donc il a fallu que je refasse une clientèle de zéro, quoi. Donc ça monte de petit à petit. J'ai commencé petit et là j'ai de plus en plus de monde.
D'accord, j'ai une question un peu plus générale comme ça, mais moi tu vois, demain dimanche, nous on organise en fait un tournoi de jeu de baston, donc un truc qu'on fait tous les mois dans un bar aussi, qui est un grand bar, qui fait un peu pub et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus en fait de bars en fait qui s'ouvrent à tout ce genre de. Est-ce que t'as écho toi d'autres bars ou d'autres organisateurs, parce que j'ai l'impression que c'est un mine de rien pour le futur, des trucs qui va permettre de un peu remplacer les salles des fêtes ou les trucs comme ça ou les.
Ouais, je pense que c'est possible parce que j'ai quand même pas mal de gens qui m'appellent pour savoir comment j'ai fait tout ça, qui voudraient tenter le truc et je pense que ça peut être un bon compromis quoi, ouais, carrément quoi. Bon après. Ça se fait pas en deux coups de cuir à peau, hein. Moi ça fait 10 ans hein, que je voulais faire ça.
Et j'ai une question toute bête, mais le coût des bornes, en fait, tu fais comment pour faire payer ? C'est-à-dire que les gens mettent la pièce, mais dans ce cas, tu dois pas avoir une espèce de licence ?
Non, c'est des jetons.
Ah, c'est des jetons.
C'est des jetons, en fait. Ouais, c'est des jetons, donc c'est 1€ le jeton, et tu fais entre 1 et 4 crédits suivant les bornes. Et je fais une formule d'abonnement aussi qui coûte 20€, t'as 20 jetons avec, et tous les jetons supplémentaires pendant un mois sont à 50 centimes.
Et pour répondre à la question de Nathan, les taxes sur les jeux d'arcade. C'est 3 fois rien.
Maintenant, c'est peanut, hein. C'est 50€ par an, par borne, je crois, ou 5€ même, je sais plus.
5€.
C'est 5€, ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, c'est tout.
Ça
ouais.
Vachement baissé.
Ouais, je me rappelle même plus parce que j'ai fait la demande pour toutes les bornes d'un coup et ouais, j'ai dû faire un chèque de 50
que
balles.
Ça servait à quelque chose.
Non, mais en fait, parce que beaucoup de gens qui parlaient justement à une époque de dire on va remettre des bornes dans les bars et tout, ils étaient emmerdés parce que à chaque fois c'était genre il faut être autorisé à le faire, il faut payer un truc comme ça, etc. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que c'est facile en fait d'être des bornes dans un bar maintenant, ça se fait tranquille quoi.
Ouais, maintenant c'est facile quoi. Après, j'ai fait le choix moi d'avoir que de la candy cab pour avoir un côté Japon, parce que j'ai une déco un petit peu d'un côté steampunk et de l'autre côté un peu style japonais. Mais après, un gars qui veut mettre 3 bornes européennes dans un bar, c'est vite fait, quoi.
Tous les barman qui écoutent Toasty, par exemple, ils peuvent payer 5 boules nées et mettre une borne avec un bon 2X dans leur bar sans avoir trop de soucis, en fait, finalement.
Ouais, après, il faut quand même connaître un minimum l'arcade, je pense, parce que c'est pas...
Pour entretenir le matos, parce que sinon les
voilà,
gens
parce que ça,
plus.
C'est... Ouais. Et puis après, quand moi j'ai quelques gars qui dosent, donc si tu leur proposes pas de la bonne machine avec des bons sticks et des bons boutons, ils vont
pas
venir quoi.
Pas trop de soucis Si d'ailleurs de tos pété, trucs comme ça, t'as pas le mélange alcool et borne.
Si, avec la House of the Dead, j'ai eu des soucis là. Je l'ai mise en vente là. Je vais essayer de trouver un truc qui a pas de flingue en mouvement quoi, parce que dès que ça bouge, il s'amuse à y tripoter dans tous les sens et voilà. D'accord. Quoi.
Et le rapport alcool borne, est-ce que tu peux consommer à côté
cool,
des bornes
quoi.
Ou pas ?
Ouais, je suis plutôt cool là-dessus. Au pire, s'il y a une bière qui tombe dans un panel, bah, change de bouton. C'est pas ça le pire quoi. Du moment qu'il y a du respect de l'autre côté, je les laisse faire. Hein. Une bière sur la borne, ça me choque pas.
Donc respect de part et d'autre.
Voilà, c'est ça, mais ça marche bien. J'ai jamais eu de problème. Non, il y a pas de flipper, non. Il y a pas de babyfoot, pas de flipper. Je me suis dit vraiment que arcade, quoi.
Le flipper, c'est très arcade, hein, je suis désolé.
Oui, je suis d'accord, mais j'ai pas énormément de place non plus. Hein. Ma salle, elle fait aller 4 mètres de large sur 8 mètres de long. Ouais. Et voilà, quoi. Donc,
après, il rajoutera un billard, un babyfoot, rassure-toi.
Bon, ça va.
Et d'ailleurs, un truc très amusant, mais en fait, bon, on dérive peut-être un peu du sujet, mais dans le bar où on organise nos trucs, il y a carrément un jeu de chat qui est connecté au net, et en fait, tu es filmé par une caméra, et genre, le patron du bar, il est tout le temps en train de jouer contre des Japonais, mais au chat, quoi. Et j'ai juste halluciné quand j'ai vu ça, et ils leur mettaient la misère. Ils sont un peu lotières sur les fléchettes, les Japonais. Et donc, toi, tu penses faire ce genre de truc aussi, ou tu vas vraiment rester...
Non, vraiment que arcade et les jeux de société, quoi. Je veux pas trop me diversifier, parce que après, si on part un peu dans tous les sens, on n'a plus l'avantage qu'on avait au départ d'avoir un truc unique, quoi.
Mais si je dis pas de bêtises, t'as aussi de l'événementiel de bon goût qui est prévu, là.
Ouais, j'ai un gros event, là, d'ici un mois. Voilà. Donc, s'il y en a qui écoutent et qui veulent s'inscrire, faut pas hésiter. C'est les 2X Games, donc c'est un tournoi de 2X.
Ah.
Voilà, un bon tournoi de 2X. Donc la salle sera entièrement vidée. On va faire que du 2X sur 3 postes de 2X. Donc 2 en versus et 1 en borne de player pour faire le free play sur celle-là. Donc normalement, Monsieur Bogard devait venir commenter, mais je n'ai plus de nouvelles parce que en fait, je devais le faire la semaine de la Paris Games Week.
Ouais.
Donc là, il était OK, puis il s'est rendu compte que c'était la même date, donc il peut plus venir. Et donc j'attends des nouvelles de lui dans quelques temps. Voilà. Et ça devrait se faire normalement, si j'ai compris. Et sinon, j'ai des bons joueurs déjà inscrits.
Tu veux faire un stream de l'événement ou pas ?
Ouais, il y aura un stream. Donc le stream, ça sera sur mon Twitch à moi. Donc c'est le stream de Players Bar. Donc c'est Players _ Bar, je crois, ou Players Dadou. Enfin, de toute façon, ceux qui veulent chercher, ils trouveront facilement et je leur mettrai. Hein.
Oh, puis Jojo, de toute façon, on mettra le détail.
Voilà,
dans,
on mettra
dans
le détail sur. De toute façon, il y a l'event hein, sur Bagropoint qui est dans les événements à la date du 9 et 10 novembre. Donc, pourquoi 9 et 10 novembre ? Parce que le 11 est férié, donc les joueurs pourront se reposer le lendemain. Et donc, ça sera sur 2 jours. Pourquoi un premier jour pour faire du 3v3 en team, donc, et le deuxième jour pour le tournoi solo.
Bon, et bah, c'est très bien. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Dadou avant qu'on passe à la suite ?
Une toute dernière. Donc, tu disais, toi, tu as mis 10 ans à monter ton projet. Qu'est-ce qui a été ta source de motivation, du coup, pour tenir ces 10 ans? Et quelle était l'idée de départ? C'était toi, en tant que joueur, tu voulais vraiment, en tant que joueur, pouvoir passer une passion, la partager?
Ouais, passer le témoin, déjà, ouais, c'est clair. Pas que les next-gen et compagnie. Enfin, à l'époque, c'était même pas encore ça, mais... C'est que les salles d'arcade fermées, voilà, tout ça. Et le truc ben, qui m'a fait patienter pendant 10 ans, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, quoi. Il n'y a pas... voilà, c'est très très cher de prendre un établissement avec une licence. Et moi, ce que je voulais, c'est deux espaces séparés. Un bar vraiment séparé de la salle pour pas que les gens du bar soient dans la salle de jeu et inversement, quoi.
Oui, que les gens soient pas embêtés et pour l'un et pour l'autre, on est d'accord. Un
lieu quand même assez grand où on peut faire les deux, quoi. Pour faire aussi, je fais aussi du rétro gaming un vendredi ou un samedi sur deux. Les consoles que je mets à disposition un vendredi ou un samedi sur deux, ça dépend. Et quelques events aussi, genre des karaokés à l'hélium, des choses comme ça. Ouais, c'est terrible ça.
C'est pas mal.
C'est samedi prochain, il y en a un pour ceux qui sont dans le coin.
Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vas-y, Glag. Une dernière question peut-être ?
Si, ouais, je me disais aussi, ouais, tu parlais que tu streamais, donc tu streamerais les matchs. Et je sais que ça se fait de temps en temps sur certains bars, c'est-à-dire remplacer les soirées foot au bar par des soirées stream. Donc,
Bah déjà, je diffuse du GGPO quasiment un soir sur deux à la télé pour ceux qui connaissent GGPO.
La classe.
Voilà. Et puis, des super play, des trucs comme ça. Je diffuse beaucoup de Twitch en fait. Parce que c'est libre, on n'est pas SACM.
Bah c'est sûr que ça cher.
Tournois, des gros events, genre les vols, les trucs comme ça,
tout ça, les soirées. Même les trucs japonais, je les envoie direct. Hein. Même si les gens comprennent pas, ils comprennent la hype quand même.
Ça c'est cool ça.
Et si on veut des infos sur ton bar, on les trouve où ?
Alors mon site internet est toujours en création là, mais ça devrait être fait. Sinon il y a la page Facebook. Hein. Bar. Et sur Google, faut Players Bar Rion. Parce que Players Bar tout court, c'est un bar sportif sur Paris.
Rion, ça s'écrit quand? R-I-A-N.
Voilà. Sinon, c'est facebook.com, Players Bar Rion, voilà.
Attends, mais peut-être que la personne qui fera la news à propos de ce toasty pensera à mettre le lien en fin de news.
Ça, oui.
Eh ben écoute, merci beaucoup, Dadou, d'être passé nous voir. J'espère qu'on n'a pas laissé quelqu'un en manque d'alcool trop longtemps.
Non, j'arrête pas de faire des signes à tous ceux qui sont au comptoir, qui me disent, qui me montrent les bières, qui me montrent les trucs. Je leur fais des pause. Mais c'est bon, ils sont gentils, ils vont pas me taper.
Merci d'être passé, et puis bah écoute, au plaisir de te revoir un de ces jours.
Et puis n'hésitez pas à liker la page Facebook et compagnie.
Exactement. Et bah merci d'être vous, à bientôt.
Faudra aller faire un tour, comme on dit souvent et qu'on fait jamais.
Ouais. C'est vrai, ce que j'allais dire, c'est l'année dernière, on s'est fait une liste de trucs qu'on allait faire, et l'année est passée très vite.
Allez, on le fera. Allez, j'ai de la famille en Auvergne, je peux aller facilement. Ça peut marcher. Ça peut fonctionner. Bref, c'était donc notre invité, c'était Dadou au Players Bar, donc n'hésitez pas à aller voir la page Facebook. Maintenant, on va passer à un truc totalement différent. C'est TMDJC qui veut nous parler de quelque chose et il a même écrit un grand texte qu'il va nous réciter pendant que nous, on est silencieux ou qu'on fait des bruits d'animaux sauvages.
Eh ben, en fait, moi, je l'ai pas écrit. Ce sera du direct directement. C'est préparé, mais pas écrit. Voilà la petite nuance entre les deux. Cette rubrique qui n'a pas tout à fait de nom pour l'instant. En fait, je voulais parler des à côté du jeu de baston. Pour démarrer, je vais bien évidemment plutôt vous parler de Street Fighter parce que c'est mon univers de prédilection. Et je voulais vous parler en fait d'un manga qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Ryu's Final. Manga qui a été dessiné et scénarisé par Masahiko Nakahira qui est un mangaka qui n'a pas travaillé que dans l'univers Capcom, qui a fait d'autres choses qui sont assez intéressantes à lire. Alors je le dis dans l'univers Capcom parce qu'en fait ce mangaka a décidé de dessiner spécifiquement en fait une histoire autour de Street Fighter 3 et il a obtenu les droits par Capcom. C'est pas des choses qui se font assez facilement en fait. Capcom est très fait très attention en fait à qui donne droit d'utiliser la licence. Alors je dis ils font très attention. Malheureusement, des fois, ils font des choix, on se demande pourquoi ils font attention. Ça, après, ça va être un autre débat. On pourrait discuter un long moment de pourquoi ils ont laissé telle ou telle personne s'occuper de leur licence, mais qu'importe. Si je vous parle, en fait, de ce manga, c'est tout simplement parce que, comme bien souvent dans l'univers Capcom, en fait, le multi-support fait qu'ils vont s'alimenter les uns les autres. Et si certains personnages ont été modifiés, notamment dans Street Fighter 4, c'est notamment parce que ce manga est arrivé. Alors ce manga, il parle de quoi? Je le disais à l'instant, en fait, on est autour de l'univers de Street Fighter 3. Il n'y a pas que des personnages de Street Fighter 3, parce qu'on verra, sans spoiler, des personnages comme Sagat revenir de sa défaite de Street Fighter 2 pour affronter Ryu. Tout le manga se tourne, d'où le nom, autour de Ryu. On connaît dès le début de l'histoire, en fait, l'histoire démarre grosso modo sur le décès de Ryu, donc le bouquin sous-entend que Ryu est mort et va nous raconter comment c'est arrivé et quel personnage il a rencontré et pourquoi il en est là. Et notamment, en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant le manga, alors je vais essayer de ne pas trop en dire, parce que je voudrais vous donner l'envie tout simplement de le découvrir, hein, ce qui serait quand même sympa de le faire de vos propres yeux. Mais si je vais en parler là, c'est qu'à un moment donné, Ryu va rencontrer Guki, Akuma en français, et se manger en fait un résine dragon, en fait, tout simplement. Et donc, il va prendre un énorme trou dans le thorax. Et ce trou dans le thorax, en fait, on va le retrouver collé à Evil Ryu dans Super Street Fighter 4. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, mais pourquoi, en fait, il est dans cet état-là, Evil Ryu? Bah, tout simplement, en fait, Ono a décidé de mélanger, en fait, l'histoire d'Evil Ryu, qui n'a strictement rien à voir avec Ryu's Final, et le fameux coup que Akuma va placer à Ryu dans l'histoire. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, dans le manga, c'est la manière, en fait, dont on va voir le personnage évoluer. On part d'un Ryu, en fait, grosso modo, qui sait plus trop comment évoluer et qui va rencontrer un Ken qui a, et je ne dis pas pourquoi, en fait, subi quelque chose qui fait que tout d'un coup, en fait, il a découvert véritablement l'essence du combat et qui va mettre une raclée, comme c'est pas permis, à notre karatéka japonais, qui se rend compte, en fait, que bah, il y a encore de la marge, en fait, pour progresser. C'est les personnages qu'il va rencontrer. Le manga, en fait, est très proche de la véritable histoire de Street Fighter 3, en prenant quelques libertés qui sont assez logiques, en fait, pour garder quelque chose d'assez cohérent, en fait, et agréable à lire. Ne cherchez pas le manga en français, il est introuvable, il a jamais été traduit. Par contre, vous pouvez le trouver en anglais. Nos amis Doudon en fait ont fait une traduction qui est pas mal. On est assez proche en fait de la version japonaise. Ils ont su adapter certains dialogues assez intelligemment parce qu'il y a quand même pas mal de références aussi à la culture japonaise dans le manga d'origine, et c'est tourné de manière à ce que ce soit totalement compréhensible du coup par nous autres européens. Donc c'est plutôt un bon travail. Graphiquement on aime ou on n'aime pas, c'est un style qui est assez nerveux, assez simple. On sent que le manga a pas été dessiné non plus pendant 3 ans. Le mec a vraiment fait ses deux bouquins, parce qu'il s'agit de deux bouquins séparés. Il a dessiné ça vraiment d'une traite. Il y a certaines planches qui sont plus agréables à regarder que d'autres. Alors je ne décris pas du tout le style graphique qui est pas laid, hein. Mais voilà, on a déjà vu des mangaka en fait beaucoup plus appliqués en fait à faire certaines planches, et c'est vrai qu'il y a des dessins qui, je trouve, sortent un petit peu du lot par rapport à d'autres qui sont un petit peu plus quelconques. L'univers de Street Fighter graphiquement est respecté, on reconnaît les personnages au premier coup d'œil. Bon, en même temps, le design des personnages est tellement connu et reconnu que bon, c'est difficile de pas les reconnaître, mais on sent vraiment que l'essence des personnages a été gardée. Des fois, je trouve que certains personnages se ressemblent un peu trop. Il y a certaines planches où Ryu et Oro ont une tête assez similaire, et on peut se dire quand même que ces deux personnages n'ont quand même rien à voir.
Quand même.
mais bon, ça c'est... Mis à part ces quelques images, j'ai pris beaucoup de plaisir du coup à lire ce manga. Je voulais donc le partager avec vous. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont pas friands d'avoir cette obligation de le lire en anglais. Comme je vous le disais, malheureusement, il n'est pas trouvable en français, mais il est très simple d'accès. Moi, je suis pas un professionnel de l'anglais et j'ai pas eu besoin de sortir un dico pour le lire. Voilà, donc c'est Ryu's Final. Vous pouvez le trouver à des prix assez intéressants, en fait, sans faire de pub, sur les classiques sites commençant par Ama et terminant par Zone, par exemple. Et voilà. Donc c'était le petit partage autour des à côté de l'univers des jeux de combat, et je reviendrai donc à la prochaine pleine lune avec d'autres choses à vous raconter.
Et si on dit pas de bêtises, il y en a eu un seul de manga de Street Fighter qui a été traduit en français.
Tu ne dis pas de bêtises, ça a été édité par Glénat.
C'était l'édition couleur au prix des Américains.
Exactement, tout à fait. Alors malheureusement, on pourrait revenir dessus aussi, mais la traduction française était traduite de la version américaine, qui déjà avait pris des libertés par rapport à la version japonaise.
En fait, c'était le cas de tous les mangas à l'époque de Glénat, où ils reprenaient notamment Ranma, par exemple, ils reprenaient toujours la version américaine, donc il y avait toujours des petits drames qui s'effectuait dans ce cas-là.
Ouais, c'est pas le meilleur travail qu'ait fait Glénat. L'édition est très difficilement trouvable aujourd'hui en entier. Ouais, le manga casse pas des briques non plus. Hein.
Voilà, sur mon étagère.
Est-ce qu'il y a eu d'autres mangas de Street Fighter hormis celui-là? Parce que je me souviens qu'il y en avait notamment il y en a vraiment beaucoup.
Il y en a plein.
Alors moi rien que si je tourne ma tête vers ma bibliothèque derrière, des mangas que j'ai ici au format japonais, j'en ai une petite cinquantaine, et j'en ai pas le tiers en fait de ce qui est sorti. Alors à main, tout ne se vaut pas, hein. Il y a des trucs qui sont plus ou moins intéressants. Il y a beaucoup de mangas qui sont sortis en fait au moment de l'arrivée de Kami de Super Street Fighter 2, qui a vraiment généré beaucoup d'engouement en fait chez les mangaka, et il y a beaucoup d'histoires parallèles en fait à ce qui se passe dans l'univers de Street Fighter 2, où on découvre en fait la passion de Camille pour les chats, comment elle découvre son équipe avec qui elle travaille, donc des choses qui sont pas directement liées à l'univers de Street Fighter 2.
Et c'est souvent des histoires assez courtes, hein, ça dépasse rarement les 5 tomes quand même.
C'est du manga officiel ou du doujin
officiel?
Il y a de tout, mais là je ne parle que de manga officiel.
Mais moi, je me souviens que tu parlais des costumes, mais il y a bien un costume de femme chat dans Street Fighter 4, justement, qui vient d'un manga où Camille possède ce costume-là, semble aussi, non?
Alors, c'est pas qu'elle possède un costume de femme chat, c'est qu'elle elle est fan des chats, et que c'est exprimé dans plusieurs mangas où elle prend des têtes toutes mimi avec des oreilles de chat qui sont dessinées au niveau de ses cheveux, mais en fait, elle se déguise pas en chat, c'est pas une Catwoman.
D'accord, bah, j'ai cru voir un manga en fait où elle était déguisée justement en Catwoman, et ça a donné le costume qu'on a dans Street Fighter notamment. Faudra qu'on vérifie ça.
Ah, mais c'est peut-être une info que je n'ai pas, hein, ça c'est possible.
Mon dieu, TMJC ne saurait pas quelque chose sur Street Fighter?
Mais je serais heureux qu'on m'apprenne quelque chose. Moi, j'aime apprendre.
Après, il faut voir que les mangas, il y a quand même peu de chances qu'ils arrivent en France, vu que la production de BD est complètement phagocytée par Udon aujourd'hui. Si eux font pas l'effort de l'importer...
Oui, il a comme beaucoup aux États-Unis reproduit quelque chose de neuf en achetant une licence plutôt que d'adapter, de faire une traduction d'un truc qui...
Enfin, ça a beaucoup changé les États-Unis quand même,
oui.
Hein,
à ce niveau-là. Là-dessus, oui.
Mais malgré tout, voilà, d'ailleurs. Vu qu'ils ont leur propre production qui est quand même très volumineuse et conséquente...
D'accord.
Peut-être que je me
trompe.
Mais
là, au niveau des mangas, ce que Edith Yudon, la plupart du temps, ce sont des traductions des œuvres originales japonaises, hein, et qui sont, je le répète, assez fidèles.
D'accord. D'accord. Ok. Bon bah.
Donc allez faire un tour dans une boutique de comic book et vous les trouverez peut-être.
Et je vous dis, hein, si vous avez du mal à vous les fournir, parce que je répète, il n'y a pas de version française, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Si vous en prenez plusieurs à la suite, il y a des frais de port qui. Alors du coup, je ne sais plus si ça va être le cas très longtemps, parce qu'apparemment
seulement Amazon.
Voilà, tu les commandes en Angleterre, hein, tu te fais
bon,
pas
donc
chier.
Vous les commandez en Angleterre et en fait vous ne paierez pas les frais de port, donc tout va bien.
Voilà. Eh ben écoutez, rien à rajouter sur les mangas Street Fighter.
Si. Il y a une collection de doujins qui est très conséquente. Je sais pas qui a signalé ça, mais ça m'étonne pas de lui.
Non.
Oh, tout de suite.
Tout de suite.
C'est mais bien. Oui, mais oui, c'est vrai.
Évidemment.
Il y en a même certains qui ont été traduits en français, d'ailleurs, à l'époque où c'était l'Écho des Savanes qui faisait des traductions.
C'est vrai. Il y avait des King of Fighters aussi qui ont été traduits.
Exactement. Et j'ai deux trois mangas clairement plus que pornographiques dans l'univers de Street Fighter 2 et une rencontre entre DJ et Camille qui est assez rigolote d'ailleurs.
Ouais, et puis c'était publié aussi dans un espèce de magazine papier tout pourri qui faisait aussi de la vente. Comment on dit.
On parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître.
Oui, tout à fait, c'était Hentai, le magazine dont tu parles, c'était Hentai.
Non, c'était pas Hentai, c'était dans le magazine Okaze et celui qui avait précédé, Yoko.
Oui, Yoko jouait, tout à fait, mais en fait, Hentai avait récupéré les droits et en fait, la collection
parce
s'appelait BD Hérogène.
Yoko, c'était pas un truc pornographique, mais ils mettaient du porno dedans et au fur et à mesure, ils se retrouvaient à censurer le truc parce qu'ils n'avaient pas le droit. Donc au final, ils sont allés foutre ça dans un magazine qui s'appelait clairement Hentai, qui lui était dans la catégorie magazine porno. C'était une grande
tout
époque, il se passait n'importe quoi, c'était génial.
Mais putain de merde, comment vous savez tout ça, là?
On l'a vécu.
On l'a vécu.
Merveilleux. Et bah écoutez, merci pour la chronique TMDJC. On va faire
avec
une petite pause musicale dans 4-5 minutes. Et on va revenir pour parler d'actualité, une autre petite chronique de TMDJC. Et après ça, ce sera encore une fois la suite du programme. On va donc s'écouter Iris de Junichi Nakatsuru. Ça vient de la bande de Soul Calibur 2.
Oh, que du bonheur.
On se retrouve dans 4 minutes. Et nous sommes de retour dans Tosti pour la deuxième partie de l'émission. Et cette fois, on va revenir à un truc un peu plus traditionnel, messieurs. On va parler d'actualité. Alors, comme on est un peu à la bourre, vu que maintenant on fait Tosti toutes les pleines lunes, on a un peu loupé quelque chose comme juillet-septembre en actualité, et elle était quand même un peu chargée. Au lieu de faire un listing complet, etc., on va vous demander, écoutez, de quoi vous voulez parler. Genre, par exemple... qui veut commencer? Allez.
Bah, Glag, il nous parle de Doudoujin tout à l'heure.
Ah ouais, vas-y, Glag, là, t'as envie de parler de culotte, je te sens chaud, là. Vas-y, commence, fais chauffer la room, là.
Oh, bah, tu sais, en même temps, le jeu dont je vais parler, là, y a pas vraiment de culotte, puisqu'en fait, c'est, alors, j'arrive jamais à le prononcer, Dengeki Bunpo Fighting Climax, le dernier jeu de Sega. Et en fait, ils ont décidé de choper la licence, Dengeki Bunpo, qui est un éditeur de light novel. Donc beaucoup de petites histoires ont été adaptées en animé et en manga. Et bah, en fait, ils ont récupéré toutes ces licences-là et ont décidé de se taper un délire et de faire un jeu de baston à la Arcana Heart où ils mélangeaient tous ces persos-là, quoi.
Mais globalement, c'est... Enfin, alors là, tu vas me dire, je suis très étonné parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent, tu sais, ça s'appelle les anime games, c'est-à-dire les jeux un peu... animé Jap, quoi. Mmh. Mais alors, dès qu'on poste une news sur Dengeki Fighting Climax, machin, il y a la moitié, enfin, il y a 10 bonhommes qui sortent sur BGP qui commentent pas trop bien, il y a tel perso, trop bien, il y a tel machin. Alors que moi qui suis un tout petit peu quand même, je connais rien du tout.
Pourtant, dans le lot, il y a quand même 3 séries qui ont énormément marché au Japon et qui ont eu pas mal de succès, surtout via les fansubs et un peu via Wakanim. Et par exemple, il y a un personnage de Oremo, il y a un personnage de Sword Art Online. Enfin, ça, c'est des séries qui ont beaucoup tourné, qui ont pas mal marché et... certaines qui continuent de marcher puisqu'ils en sont déjà plusieurs saisons, quoi.
Et dans le genre, est-ce que c'est regardable comme série, le truc dont tu parles, ou est-ce que c'est genre faut se cacher avant de les regarder, ou alors être complètement comme Well Cook, c'est-à-dire n'avoir aucune race et faire ça devant les enfants?
Pourquoi moi?
Ou alors faire comme TMDJC qui emmène des enfants en bateau pour jouer à Street Fighter 3 avec eux sans qu'ils puissent s'enfuir.
Alors, pour donner une idée au niveau des différentes séries, ça couvre un peu tout le spectre, c'est-à-dire que t'as Sword Art Online qui est un anime sympa au sujet de jeunes qui se mettent dans un MMO. En fait, on va dire c'est une version un peu moderne de Dot Hack.
Bah en fait, pour être un peu plus large, le mot RPG aujourd'hui, c'est quand même une très grosse source d'inspiration pour l'animation japonaise. Il y a beaucoup de séries animées qui reprennent ces univers-là.
Sword Art Online, on va dire, c'est un des plus grands publics avec Durarara.
Durarara, c'est vachement bien.
Il y a un perso d'Urara dedans, donc. Et par contre, il y en a des un petit peu plus Well Cookien, genre personnage de Oremo.
C'est quoi ça?
Bon, c'est une histoire de truc de complexe de petite sœur ou un truc comme ça. Genre de truc que tu devrais kiffer.
Moi, j'aime pas, c'est pas mon truc, hein. Je sais pas où vous imaginez ça, mais moi, le Moe, je déteste ça. Hein.
Ah, d'accord, bon, mais bon, je sais pas, vous parliez d'un magazine hentai tout à l'heure, donc bon, voilà, je veux dire, on sait
jamais. Bon, c'est le premier à sauter sur mes petites culottes, donc bon...
Culottes, tu sautes pas dessus, arrêtez.
Pour revenir dans le contexte de l'époque, c'est après l'avoir acheté que tu te rendais compte que c'était du porno.
Donc, est-ce qu'on a un peu d'infos sur le gameplay? Est-ce que quelqu'un a un peu suivi? J'ai cru comprendre que c'était un truc qui ressemblait vachement pas à Arcane Heart, justement, mais plus à... Comment il s'appelle, l'autre, là? Où il y a la fille qui fait tomber. Non, la Fury Bibliothèque et l'assist vélo, là. C'est dans quel jeu?
Ah, putain.
Putain, comment
avec les pingouins, là.
Non, pas avec...
Alors, pour être plus précis, t'avais c'est un doujin avec que des nanas.
Mais non, il vient de se tirer aux États-Unis, putain, vous m'aidez tellement pas.
Puis il y a des pingouins dedans, merde.
Mais non, putain, mais... Ah, mais... Ah, j'arrive pas à retrouver le nom, c'est...
C'est pas toi qui avais fait la news en plus?
Mais oui, c'est moi en plus, non, c'est... c'est le truc, là, c'est aussi un...
Il y en a un qui te demande si c'était Aquapazza.
Voilà, Aquapad, voilà, j'ai cru comprendre que c'est un petit peu comme Aquapazza.
Merci, Charles.
Ça y ressemble, parce qu'apparemment, il y a eu des log tests qui ont eu lieu au centre, au club de Sega, logique. Et grosso modo, ouais, ça ressemble un petit peu à du Arcana Heart avec un perso en assist que tu peux faire intervenir pendant le combat. Au niveau de la prise en main du feelings, bon, ça reste, j'ai l'impression que ça reste quand même un petit peu rigide. Mais ça, ouais, ça me fait vraiment beaucoup penser à du Arcana Heart au niveau de la prise en main. Quoi.
D'accord. Bon, on essaiera de continuer à suivre ce jeu-là pendant les choses. Et autre chose à rajouter sur Dengenki Bunko Fighting Climax?
Bah, dedans, il y a un barman qui balance des distributeurs et des panneaux indicateurs à la gueule de l'adversaire. Donc, déjà rien que pour ça, ça claque.
Voilà, ça c'est la classe.
Ouais, c'est un personnage de Durara. Si vous n'avez pas vu Durara, c'est une excellente série qui se passe dans un quartier de je sais plus quelle ville, dans lequel il y a une motarde sans tête, comme le cavalier sans tête, et tout un tas de persos complètement débiles.
Quoi, un remake de Sleeping Hollow?
Voilà, ça, c'est un peu ça.
Yolo, pardon. Attends juste une seconde, vu qu'on a parlé 30 oui. secondes d'animation, n'oublions pas de repréciser que l'animé de BlazBlue Alter Memory est disponible en simulcast. Il est pourri, d'accord. En
simulcast. Non, Livid Wakanim a fait une belle description tout à l'heure. Oh, vas-y, Livid, dis-nous comment c'est BlazBlue Alter Memory.
C'est d'une nullité absolue.
C'est médiocre, on est d'accord.
Ah oui, c'est extrêmement médiocre.
C'est disponible en simulcast en français gratuitement, nous pouvons le dire. Et si vous aimez pas ça, vous cliquez sur la vidéo d'à côté, c'est Kill la Kill, c'est la nouvelle série du réalisateur de Gurren Lagann, et c'est pas mal.
Et c'est extrêmement misogyne, bref.
Mais c'est génial.
C'est horrible, j'aime pas du tout. Bref, alors on voulait parler d'autre chose. Qui veut nous parler? Sly, est-ce que tu veux nous parler vite
ouais,
fait
parce allez.
Que les gens ne te connaissent pas forcément, mais tu as une passion cachée qui est que tu fais de l'escrime médiévale, je crois que c'est ça.
Exactement.
Et que donc tous les dimanches tu t'entraînes, vous pouvez d'ailleurs le retrouver.
Alors tous les dimanches c'est moins le cas parce que j'ai quand même un peu moins le temps, donc oui, les entraînements publics, moi je fais plus des masses. Mais tous les samedis soirs, tous les mardis soirs, je suis en salle d'art, moi.
D'accord. Et donc, mais tu veux nous parler de...
Alors, voilà, ce matin, j'ai lancé mon Steam et j'ai découvert que si on précommande le nouvel add-on de Chivalry Medieval Warfare, le nouvel add-on, c'est donc Deadliest Warrior. Et oui. Et si on le précommande, on a accès à la bêta. Alors,
tu peux expliquer à ceux qui connaissent pas, parce que mine de rien, on aurait pu en parler sur BGP si on était un peu plus, parce que c'est quand même
d'esprit.
Un jeu. C'est quand même un jeu de combat, quoi. Mais c'est un jeu de combat à la première
Alors,
personne, quoi.
Je l'ai super vite testé ce matin, parce qu'en fait, je m'étais jamais mis au jeu et qu'en ce moment, ce week-end, en fait, pour ceux qui l'écoutent en direct, il est gratuit en démo sur Steam.
Tu parles de Chivalry ou de Deadliest Warrior?
Chivalry.
Bah, je l'avais acheté, mais je l'ai pas encore essayé, mais.
C'est un jeu, effectivement, à la première personne. Tu vas avoir, le clic gauche pour taper, la molette du haut ou la molette du bas pour faire des coups spéciaux et le clic droit pour parer. Donc le jeu est quand même un poil fastidieux, moi je trouve, en premier abord. Et c'est t'as différentes classes et c'est un jeu de ça a l'air de enfin c'est un jeu à points marqués, etc. Tu crèves, tu respawn automatiquement et t'as des objectifs à prendre pour ton équipe.
D'accord. Et
donc,
en gros,
là
le...
donc
t'es un petit peu un FPS transposé dans un univers médiéval.
Ah bah ça s'appelle Medieval Warfare, hein, voilà. On a compris la référence. Là, la grande nouveauté donc, c'est qu'avec Deadliest Warrior, on va avoir 6 nouvelles classes. Le Spartiate, le Samouraï, le Viking, le Chevalier, le Pirate et le Ninja.
Est-ce qu'il y aura encore la double lance du Viking?
Bah j'en sais rien, je les ai pas testés.
C'est les persos du premier Deadliest Warrior, c'est ça?
C'est une partie des persos du premier Deadliest Warrior, parce qu'il y en a beaucoup plus dans Deadliest Warrior.
Donc pour ceux qui connaissent pas Deadliest Warrior, c'est un petit peu l'héritier de...
Soul Calibur.
Non, pas
Oh, ce troll.
J'allais dire, c'est un peu l'héritier de Bushido Blade dans l'esprit, c'est-à-dire tu coupes et tu fais des comparatifs de bits sur qui les petites tranches la plus grosse entre le viking, le ninja, le samouraï et le pirate, le pygmée, et voilà quoi.
Même que ça surprend la première fois, parce que je me souviens de mon tout premier combat, je crois que c'était contre Will Cook. J'avais, je crois, le Spartiate et t'avais je sais plus qui, et en fait je me mets à l'autre bout de l'écran et je lance la lance qui tombe pile poil dans le crâne de Will Cook qui s'écroule. Et donc, c'est
genre, pas mon personnage,
coup,
pas moi.
Un coup, une vie, et je fais, what? Mais c'est déjà fini.
Mais bon, pour décrire Deadliest Warrior, en fait, c'est un jeu de baston avec un gameplay plutôt beat'em all à la japonaise.
Voilà, un petit peu.
On veut faire résumer rapidement
et
le
Et qui
jeu.
Surtout est tiré d'une émission de télé américaine qui a fait 3 saisons et qui était sur le principe de justement, qu'est-ce que ça donnerait si des grands guerriers de l'histoire se rencontraient? Avec le grand show à l'américaine débile pour t'expliquer comment ils vont faire des vrais tests pour justifier comment ça marche.
Et un vrai parti pris dans certaines émissions quand même, je trouve.
Oui, alors complètement, évidemment. Et le plus drôle quand même, c'est les derniers épisodes de la 3e saison.
Que je n'ai pas vu.
parce que quand même ils ont fait le vampire contre zombie. et ils ont fait
qui a gagné?
C'est a gagné. Le vampire qui gagne, ils ont fait 4 vampires contre 150 zombies.
Ah merde.
Et si
on avait pas assez.
Non, mais le zombie il peut pas gagner tout seul, enfin tu vois.
Non mais c'est 150 zombies contre 4 vampires.
Mais ça suffit pas.
Ouais. Mais alors quand un zombie mord un zombie, quand un zombie mord un vampire, est-ce que le vampire devient un zombie ou le zombie devient vampire?
Ça devient extrêmement trop compliqué, on va passer
bref
à la suite, excusez-moi.
Mais voilà, le jeu vidéo a pas été aussi dans le sale que l'émission, parce que l'émission ils ont été aussi faire du Osama Ben Laden contre Pol Pot. des trucs vraiment bizarres de ce genre-là, tu vois.
Ouais, putain de merde.
Mais bon.
Bah voilà. Donc en gros, Dead Destroyer est toujours dispo sur le PSN et le Xbox si vous voulez y jouer.
C'est ça. Je crois qu'il y a une version boîte qui était sortie pour Xbox.
Aux États-Unis.
Qui contenait le 1 et le 2, ouais. Le 2 est quand même vachement moins bien que le 1.
Voilà, c'était aux États-Unis seulement, donc voilà. Sinon, Aknik, tu es toujours avec nous.
Tout à fait.
Tu voulais nous parler un petit peu de Republic Fighter, parce que oui, le deuxième Republic of Fighter, le premier de la saison, a eu lieu en septembre.
Exactement. Donc le Republic of Fighter, donc bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
En dehors de faire mes quelques news sur Bagro.point, je fais partie également du staff de Republic of Fighters. Donc ça a eu lieu mi-septembre dans Paris, près du Kremlin Bicêtre. Et en gros, donc c'est un événement de ranking français qui regroupe donc les communautés sur différents jeux de combat. Cette année, il y en avait donc 8 mi-septembre, c'est ça. Donc il y avait du Injustice, du Street 4, du Marvel, du King of Fighters, du Smash Bros Melee et d'autres. C'est donc en fait déroulé sur 2 jours, donc le samedi et le dimanche, avec les premières phases le samedi, donc jusqu'au 8e de finale en gros pour la plupart des jeux. Les tournois sont en gros en solo et en team, pour la plupart. Et la spécificité de l'événement, enfin entre autres, c'est que le samedi soir, en fait, il y avait une nocturne organisée, on va dire à la fin des tournois solo de la journée, vers 21h. Donc une nocturne sans interruption, jusqu'au lendemain, reprise du tournoi à peu près à 10h du matin. Donc il y a eu beaucoup de joueurs, énormément de joueurs, puisqu'on a eu des tournois avec des arbres très complets, comme Street 4, si je dis pas de bêtises, il y avait quoi, 64 joueurs,
je crois qu'il y en avait... Non, il y avait plus de joueurs, on a augmenté les brackets, je crois que c'est monté à 90 joueurs pour Street 4.
D'accord, parce qu'en fait, initialement, c'était prévu pour 64.
Si c'est le petit clin d'œil aux gens qui nous disaient encore il y a pas si longtemps que ça, non mais vous allez voir Tekken Cross Street, ça va, enfin Street Cross Tekken va bouffer Street Fighter 4. J'ai dit, non, pas encore.
Il fallait que le place en Street Cross Tekken.
Non, il y a pas eu de Street Cross Tekken à cette édition en tout cas. On est resté dans le classique entre guillemets, même si on a fait pour la première fois par rapport à l'édition du mois de janvier qui comportait que 4 jeux, on a eu donc la communauté Smash Bros qui s'est déplacée en nombre, hein, puisque ça a été quand même vachement animé autour de ce jeu sur les phases finales.
Non, c'était bien. Il y avait un gros un des meilleurs joueurs en place. Lui, il y a Ice qui était un... C'est Ice qui s'appelle
Ice
qui est venu d'Allemagne, il me semble, je crois qu'il est allemand. Et les phases finales, putain, ils font du bruit les joueurs de Melee. Hein. On les salue bien bas parce que putain, ils ont le sang chaud, hein, on va dire.
Ouais, non, c'était vraiment... C'est, les différentes communautés, c'était vraiment super sympathique. Et puis, il y a eu de l'ambiance sur tous les tournois, hein, honnêtement. Tous les tournois, il y a eu de l'ambiance sur les phases finales. C'était vraiment super sympa. Cette édition aussi, il y a eu des partenariats assez importants, notamment donc avec le site gamekult.com pour le streaming et O-Gaming TV aussi. Donc il y a eu la retransmission sur les deux en simultané. Donc il y a eu beaucoup de viewers, si je dis pas
ouais,
de bêtises.
Il y avait bien de la vue, ouais. C'était nickel.
Vraiment bien. Pour la prochaine édition, j'ai pas encore d'informations sur la date, même si j'imagine que c'est printemps.
Non, mais, ça va être entre mi-janvier et mi-février. Voilà.
D'accord, donc tout début 2014. Voilà. Avec Karma. Donc voilà, bon, c'est un événement qui essaye en tout cas de grandir et d'essayer de rendre un petit peu, de donner plus de visibilité en fait sur le versus en termes de compétition. Hein, on parle souvent d'e-sport en ce moment. D'ailleurs, il y a eu une émission il n'y a pas longtemps sur Game One.
Tout à fait.
Avec Karma.
Justement, ouais, qui est passé.
Passage. Karma, Kayane, etc. Et donc voilà, bon, c'est des événements super sympas, il y a beaucoup de monde, une très très bonne ambiance, il y a du bon niveau. Honnêtement, sur la plupart des jeux, j'ai vu du gros niveau, même moi qui ne connais pas du tout certains jeux, j'ai été assez impressionné par les phases finales sur certains jeux. Donc c'était vraiment très sympathique et voilà.
Je préciserai pour ceux qui n'ont pas suivi, donc toutes les vidéos sont disponibles sur le channel YouTube de Republic of Fighters, donc vous tapez Republic of Fighters, et ils ont aussi fait pas mal d'interviews en fait des joueurs qui parlent un petit peu de leur parcours dans le tournoi, de leur parcours en général et de leur jeu aussi. On a interviewé quasiment, parce que j'ai fait moi certaines interviews de joueurs de Street Fighter 4, et on a interviewé notamment Luffy, Perplex, Sonic pour Street 4, et sur, il y en a pour tous les jeux quasiment 3 ou 4 joueurs pour chaque jeu, et donc on a notamment les joueurs de Smash, mais aussi les joueurs de Dead or Alive, parce que c'est un joueur hollandais, je crois, qui est descendu de Hollande pour bourriner les Français. Aussi.
Ouais, qui donc, était là aussi l'édition numéro 1.
Voilà, qui avait gagné l'édition numéro 1, donc l'Hollande domine bien. Et donc voilà, sur tous les jeux, il y a des interviews. Donc si vous connaissez pas trop les autres joueurs, les jeux, etc., vous pouvez donc regarder les phases finales et regarder les interviews des joueurs, vous en apprendrez beaucoup.
Moi, j'aurais une remarque à faire, tant que je te tiens. Quand vous faites des interviews, vous avez un seul micro.
Ah, oh, ça va, monsieur le nazi. Bah, à
chacun son tour.
Bref, alors, on va terminer peut-être avec TNDJC, tu voulais nous parler rapidement, s'il te plaît, de la GOX.
Ouais, on va faire ça très très rapidement, du coup, parce que je crois
qu'on est un peu en retard.
On commence à être en retard, c'est ça, ouais. Non, juste pour dire qu'effectivement, donc, on a tous plus ou moins suivi le fait que la Neo GOX, à un moment donné, on a cru que ça allait s'arrêter. Finalement, non. En fait, juste pour donner très rapidement un éclairage là-dessus, la Neo GOX, en fait, qui est fabriqué et distribué par la société Tomo, a des droits en fait qui courent jusqu'en 2016 pardon, au niveau des droits d'utilisation en fait du produit d'SNK. Donc SNK a, pour l'instant, juridiquement parlant, pas trop le choix, parce que si tout d'un coup en fait comme ça sans rien ils décident de dire vous arrêtez, en fait la firme en question va se charger de leur mettre un procès au cul, et pour l'instant SNK a absolument pas les moyens. Alors qu'est-ce que reproche SNK à la société Tomo, c'est tout simplement en fait que aujourd'hui le produit final ne répond pas aux attentes de qualité en fait d'SNK. On peut le comprendre parce qu'effectivement tout n'est pas parfait dans le produit. Je pense que Wellcook pourrait en toucher deux mots rapides, mais
Très rapidement, dans le produit il est plutôt bien. Il y a juste certains jeux comme un Metal Slug qui est quand même assez exigeant en termes de hardware. Voilà. Qui a tendance à pas très bien tourner.
On peut peut-être regretter aussi la qualité.
Aussi, ça marche vraiment pas bien, moi je trouve. Mais...
On peut peut-être regretter aussi la qualité de l'écran qui est pas optimum par rapport.
L'écran, ça va globalement. Ça va. C'est vraiment l'émulation qui est pas au niveau sur certains jeux.
Juste quand même. Enfin, bon, moi pour l'avoir eu entre les mains. Enfin après, je suis peut-être pas tombé sur le bon modèle. C'est pas de chance. Mais quand tu compares en fait ce qui se fait sur ne serait-ce que les téléphones d'aujourd'hui ou sur les consoles qui sortent aujourd'hui, c'est pas un écran extraordinaire. Faut l'avouer.
Bon, oui, d'accord. À ce point-là, oui.
C'est bon, voilà. Bon, le produit est pas parfait, mais il a le mérite d'exister, et puis surtout de pouvoir amener une bibliothèque partout qui est quand même assez conséquente. Il manque encore quelques bons jeux à mon sens, mais voilà. Enfin, le produit est là, et donc du coup ils ont gagné ce droit. Enfin, gagné. Le SNK peut rien faire, donc pour l'instant, à moins que SNK décide de porter plainte. Mais là après c'est dénonciation du contrat pour dire voilà, nous on considère que vous n'avez pas respecté votre part du contrat, et ils le feront pas. Clairement, je pense qu'ils ne le feront pas. Donc le produit, à mon avis, continuera d'être disponible jusqu'à 2016.
Pour être honnête, moi, dans mon boulot, je me retrouve souvent à faire du business avec des Asiatiques aussi. C'est pas facile. Parce que les Asiatiques, malgré tout, il peut y avoir des contrats, des accords, des trucs signés, mais derrière, ils vont toujours te demander des trucs, te préciser des trucs, aller chercher des trucs à côté qui sont pas dans le contrat.
Les Bretons aussi. Hein.
Et... les Bretons, mais surtout. Mais honnêtement,
je le dis, parce que
en termes de business, de manière générale, les Asiatiques, c'est très compliqué à gérer.
Oui, mais alors si
t'as
un Breton d'origine asiatique, comment ça se passe?
Non, mais si ça se trouve, SNK n'a absolument aucune autorité à critiquer le produit ou à se mettre en opposition, mais ils le font parce que c'est des Japonais, c'est des Asiatiques, et ils ont envie d'envoyer chier, ils le feront. Et peut-être qu'ils ont aucun droit de le faire dans le contrat. C'est tout à fait possible.
Bah, de ce que j'en sais, de toute façon, légalement parlant, SNK est pieds et poings liés, clairement.
Voilà, donc les Asiatiques, méfiez-vous-en comme la peste quand vous faites du business. C'est déjà arrivé à Yamato avec des sticks quand ils voulaient vendre du Kanban, donc
ça
méfiez-vous.
C'est racisme primaire, ça roule. Bon, allez, on va terminer très rapidement. Tu voulais parler vite fait, faire un petit point Wellcook sur les jeux de baston sur PC. Donc tu as 1 minute 30, vas-y.
Ouais. Alors, une minute très vite, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le PC, en fait, a souvent été le parent pauvre du jeu de baston, comparé aux consoles et à l'arcade. En dehors de l'émulation, qui était un domaine super riche, les nouveautés, on pouvait s'asseoir dessus. Là, cet été, on a vu des jeux sortir, il y a eu KOF 13, il y a eu... Mortal Kombat 9, qui est Skullgirls qui sont sortis. Il y a Injustice qui a été annoncé pour PC, même s'il arrive après. Il y aura le Ultra Super Street Fighter 4 qui sortira et qui sera... pas sous Windows Live, mais sous Steam. Ça veut dire que Steam aussi prend une place énorme. Il y a Project M, qui est un projet amateur super prometteur. Il y a Air Dash Online, qui est un Kickstarter pour un jeu à la MVC3 pour les Américains. Donc, en fait, le jeu de baston sur PC est en train de prendre une dimension qu'il a jamais connue. On voit des grossissances qui avaient jamais pris place là, ou à de très rares occasions en Asie, par exemple, qui arrive, d'autres qui, Vanguard Princess, par exemple, qui est dans le Steam Greenlight, je crois, débarque. Donc, en fait, toute la vie qu'il y a chez les Japonais en termes de doujin au niveau des jeux de baston qui est super riche, eh ben, on commence à voir le même microcosme qui se développe en Occident sur les PC. Et ça promet un avenir sur le jeu de baston, même s'il n'est pas super populaire, qui peut être très intéressant.
Mais heureusement, parce que franchement, il y a quelques perles quand même au Japon qui sont super difficiles à obtenir en France.
Mais tu sais d'ailleurs que les gars de Skullgirls ont eu un petit différent avec Steam parce qu'il n'existe pas de catégorie jeu de combat sur Steam en fait.
Tu sais qu'avant de faire cette chronique-là, je suis allé voir justement sur Steam, voilà. Effectivement, il n'y a pas de catégorie jeu de baston.
J'ai même envie de dire, il n'y a toujours pas, alors que, aujourd'hui, ça devrait être logique.
Clairement, mais bon, ça va venir.
Alors, je suis allé cliquer sur sport pour voir si je trouvais les jeux de baston.
Non, ils sont dans les jeux de baston, il me semble, donc...
Ouais. Ils sont pas dedans, effectivement.
Donc, voilà. Donc, pour faire vite fait un petit point sur les jeux sur cet été, Mortal Kombat 9 est très bonne adaptation, c'est-à-dire que c'est un portage quasiment pur et simple, donc techniquement, c'est pas toujours très clean, mais ça va. Skullgirls, il défonce vos mères, hein, littéralement.
Ah, c'est clair, il est mortel, le port de la
PC, c'est
mortel.
Il est vraiment la meilleure version.
Ouais.
Crois que si vous le prenez maintenant, vous aurez encore Squeakly de gratuit.
Oui, d'ailleurs, si vous l'achetez, prenez les DLC de Skullgirls sont gratuits pendant 3 mois. Il reste lié à compte. Donc en gros, si vous achetez Skullgirls maintenant et que vous téléchargez Squiggly, elle restera gratuite pour l'éternité dans votre compte Steam. Sinon, il y a aussi, on a oublié de le mentionner, mais il y a Divekick qui est sorti également sur PC. Quand il est sorti, il a eu quand même une sortie un peu houleuse à base de netcode modifié, de netcode remodifié, de brache, d'affichage, de machin, mais globalement...
On parle pas de KOF 13,
là ? Si, de KOF 13, voilà. Et globalement, il est jouable, hein. Il est même plutôt bien en termes de offline, il est même très, très bien, mais en termes de online, par contre, c'est vraiment un jeu d'un autre âge, quoi. C'est genre pas de lobby, juste on joue les uns contre les autres, et il faut vraiment avoir une bonne connexion. Sinon, je sais plus, il y a encore d'autres jeux. On attend toujours des escargots, hein, sur PC. Nous pensons à lui, mais c'est vrai que...
C'est notre petite dédicace.
Voilà, et pour ceux qui n'auraient pas vu Vanguard Princess, donc comme disait Wellcook, vient d'arriver sur Steam Greenlight, donc ça veut dire que si vous avez un compte Steam, vous pouvez chercher dans la catégorie communauté Greenlight pour voter pour les jeux dont vous voulez qu'ils arrivent sur Steam, en fait. Tous les jeux dont les éditeurs ne sont pas encore sur Steam doivent passer par Greenlight, et notamment dans le Shoot 'em Up, on a vu Ikaruga se faire greenlighter. Là, donc les prochains jeux Treasure, donc le prochain shoot de Treasure par exemple, pourront arriver sur Steam directement. Donc quand on vous met ça sur BGP, pensez à voter pour les jeux. Bon, on devait parler un petit peu de Killer Instinct, mais on n'a pas le temps, donc on remettra ça à la prochaine pleine lune. D'ici là, j'aurais mis les doigts sur le jeu. Donc TNDJC, tu voulais terminer avec une petite chronique, tu peux la présenter, et après on fera une pause musicale. Et juste après la pause musicale, ce sera Tosti sera terminé. Sauf pour ceux qui nous écoutent en ligne, on fera une série de questions-réponses. Donc voilà, TMDJC, c'est à toi. Quelle est cette chronique ?
Eh ben, cette nouvelle chronique qui s'appelle Parole de joueur, en fait, est une chronique qui se veut à la fois courte et nerveuse. En fait, l'idée, c'est de présenter un joueur et mettre la lumière sur lui en ciblant les questions de manière à mettre ses propres goûts en lumière. Donc c'est pas forcément que des joueurs pros, c'est vraiment des gens qui alimentent notre communauté de jeux de baston par des billets divers et variés. Alors, là on va commencer plutôt par des joueurs qui sont connus et reconnus. Notre premier ici présenté sera Dooms, mais voilà, j'ai envie d'attaquer un petit peu partout. L'idée, c'est vraiment de voir comment ça se passe en fait dans la tête tête de quelqu'un qui d'habitude en fait est en face de vous. Et ben voilà, ça s'appelle parole de joueur.
Et ben c'est parti, donc on fait silence et on écoute.
Parole de joueur.
C'est quoi ton pseudo ?
C'est Dooms, salut.
Dooms, t'as découvert le jeu de combat comment ?
Depuis 15-20 ans presque, hein. Depuis premier KOF, King of Fighters, Street Fighter comme tout le monde, hein, à la base, Street Fighter 2. Et après, je suis vraiment tombé amoureux de KOF 94, quoi, qui cassait tous les principes de Street Fighter, quoi, c'est-à-dire du 3 contre 3 et la possibilité de pouvoir prendre plusieurs bonhommes à la fois. Quoi.
C'est quoi ton personnage préféré ?
Yagami.
Bouge-toi !
Yagami, c'est mon perso de cœur depuis le 95. Je le joue tout le temps. Quasiment peu importe la version. Je trouve que c'est le perso le plus charismatique du jeu.
Qu'est-ce qui te plaît chez lui ?
C'est un perso, c'est un bad boy de service, hein. C'est comme Wolverine et compagnie. Mais c'est surtout que c'est le rival de Kyo que j'apprécie énormément. Mais ses pouvoirs, ils sont monstrueux. Sa manière d'agir, c'est sa philosophie du jeu qui me correspond. Qui est assez fonce dans le tas, quoi.
En termes de gameplay, qu'est-ce qui fait en fait que tu sois plus KOF que n'importe quel autre jeu ?
Bah, je suis plus libre de pouvoir bouger dans KOF que dans, par exemple, Street Fighter. Les autres jeux, je connais pas spécialement, mais à Street Fighter, je trouve que c'est assez... Le système du jeu, il est assez bloqué. Déjà, à KOF, on a les esquives, on a les... Comment ça s'appelle ? Ça dépend des KOF, il y a les tags ou les trucs comme ça. Il y a plusieurs possibilités de pouvoir revenir dans le match, et ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi. Voilà, il y a plusieurs bonhommes, donc si on kiffe plusieurs bonhommes, on peut en jouer plusieurs et pas être bloqué sur un truc. À Street Fighter, on est bloqué sur les match-up, alors qu'à KOF, il n'y a pas trop ça. On le ressent pas trop, en tout cas.
Ton KOF préféré ?
98. Pour moi, ça reste mon KOF de cœur. C'est le plus beau pour moi. C'est l'ambiance, c'est la meilleure. Le gameplay, c'est le top. Les persos, ils sont au maximum de leurs possibilités, quasiment.
Qu'est-ce que tu penses de KOF 13 ?
J'apprécie énormément KOF 13, parce que pour une fois, on peut bénéficier de ce que les autres jeux ont déjà, c'est-à-dire graphiquement, il est au top, parce qu'on est en 2013 et les graphismes de KOF 2002, UM, KOF 2002, tout ça, c'est plus possible, quoi. Même si le gameplay est présent. Et la facilité d'accès, du coup, ça amène beaucoup, beaucoup d'autres joueurs, ce qui est beaucoup plus amusant, beaucoup plus fun. On peut lui reprocher sa facilité, mais à haut niveau, ça reste quand même assez difficile, parce que le moindre erreur, c'est paye cash. Et c'est pas mal. C'est une autre manière de voir, une autre philosophie de KOF.
Bon, je te pique ton numéro de téléphone, je le mets dans mon mien, et j'ai besoin d'un thème musical, en fait, pour savoir que c'est toi qui m'appelles, je mets quoi ?
Un thème musical pour KOF... Ah oui, c'est le thème du 98, la rencontre Kyo Yagami. C'est vraiment ce qui me touche le plus, ce que j'aime le plus. La rencontre entre les deux rivaux, les deux clans. C'est une musique spéciale, hein. Ouais.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et à très bientôt.
Je te remercie, mais je serai là l'année prochaine, Stumfest, toutes les occasions, parce que c'est une famille et ça me fait plaisir.
Bon, on se revoit très bientôt alors.
Et on est de retour donc dans Toasty. On va se terminer avec la pause musicale. Avez-vous quelque chose à rajouter avant que je la lance ?
On ne fait pas des bisous ou on les fait après ?
Non, on peut les faire maintenant. Non, vous pouvez dire au revoir, vous pouvez dire à bientôt, que vous avez pensé de la chronique de un peu de nerf, quoi.
On va pas écouter sa chronique, on n'en sait rien.
Ah, ah bah, vous êtes vraiment méchant, eh bah, vous auriez pu quand même l'écouter. Bon bah écoutez, pour tous ceux qui nous écoutent pas en live, eh bah, c'est la fin de Toasty, en tout cas ce Toasty numéro 1 de la nouvelle saison. On espère qu'il vous a plu. Si vous avez des remarques, des conseils, des choses à rajouter, eh bah, mettez-les dans les commentaires de la news qui met en ligne ce Toasty. On se retrouve à la prochaine pleine lune, je me souviens plus exactement la date, je crois que c'est le 17 novembre.
C'est dans 4 semaines, normalement.
Voilà, dans 4 semaines. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on fait ça à la pleine lune, finalement, parce que je pensais que c'était c'était toutes les 3 semaines la pleine lune, je me suis fait avoir, en fait.
Ce sera le 17 novembre.
Novembre, eh bien, écoutez, ce sera rendez-vous le 17 novembre en live pour le numéro 2 de ce Toasty saison 2013-2014, cette fois avec peut-être un peu plus de Jojo The Kill, de Kaldan et de Tibbs, on l'espère. On vous fait des gros bisous et pour ceux qui sont en live avec nous, restez avec nous après la pause musicale, on fait une session de questions-réponses avec le chat. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Magro Point. Bisous.
Salut.
Salut.
Au revoir.
Au revoir.
On s'écoute Ship Grassland de Akitaka Toyama dans Tekken 6.